Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Ce goût, c'est aussi celui de la viande sauvage, du gibier chassé dans la forêt, de la goutti, du porc épic, du singe, des rongeurs attrapés, selon les techniques enseignées depuis toujours par ceux qui sont les habitants des forêts d'Afrique centrale ou d'Amazonie. La chasse, pour se nourrir, première ressource, la base en somme. Et nous avions envie de rappeler cela avant d'être une source de revenus, bien avant d'être commerciale. La viande de brousse est une affaire de vie, une source de protéines, d'apprentissage, de liens social et de partage. Alors pour raconter cette histoire aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Serge Bahuchet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethno-écologue au Musée National d'Histoire Naturelle à Paris. Vous connaissez très bien ces forêts d'Afrique centrale dont nous venons de parler, dans lesquelles vous avez vécu avec les pygmées Aka, Mbaya, les Baka aussi, que vous connaissez, Romain Douda. Bonjour.
Bonjour.
Puisque vous avez vécu également avec eux à l'est du Cameroun. Vous êtes éco-anthropologue, également chercheur à l'Institut Pasteur à Paris. Vos expériences se suivent en réalité et se complètent dans le temps, Serge puis Romain, et donc aussi votre regard sur cette nature et l'appauvrissement des forêts et des ressources vivrières de ceux qui y vivent. Alors la première question qu'on se pose évidemment, c'est quand on parle de viande de brousse, c'est de donner une sorte de définition, une idée de ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est que la viande de brousse, Romain Douda?
Alors la viande de brousse, c'est disons un synonyme de viande sauvage ou de gibier. Ici en Europe, on parlerait de gibier. En Afrique centrale, on parle de viande de brousse. Et en fait, ça correspond à tous les espèces animales sauvages qui sont finalement consommées et chassées. Ça va de l'antilope au potamochère, au singe, au pangolin, au rat, au porc épic, certains grands oiseaux également. Donc c'est toute la diversité finalement de la faune sauvage consommée.
On l'appelle de brousse parce qu'elle se trouve d'ordinaire dans la brousse, mais on pourrait l'appeler la viande de forêt. En réalité, c'est une sorte de terme générique, Serge Bahuchet.
Oui, bah c'est un terme consacré qui est archaïque, parce qu'en fait le terme de brousse lui-même, il est entaché d'histoires bizarres. Mais effectivement, c'est toute la faune sauvage, des vertébrés en réalité, le vertébré terrestre ou aérien. C'est-à-dire que les poissons, on les met pas dans la viande de brousse. Mais effectivement, les oiseaux, puis tous les mammifères, en fait.
Et les reptiles?
Les reptiles, c'est variable. Les gros reptiles sont consommés, avec délectation. Les petits reptiles ne le sont pas. On n'y pense pas, mais en fait, on va y penser quand c'est des gros animaux conservés ou protégés. Je pense aux serpents géants, comme la vipère du Gabon, et puis les...
On pense viande de brousse.
Les pitons.
Pitons, voilà. On pense aux viandes de brousse, on pense petit. Mais en fait, viande de brousse, c'est aussi très très grand.
Ah oui,
ça peut être des grands mammifères également.
Ça va du rat à l'éléphant. Donc, c'est ça, c'est toute cette diversité-là. Donc, la viande de brousse, c'est aussi la viande d'éléphant, la viande de gorille. Dans certaines zones, on consomme du gorille. Et les viandes les plus grosses sont aussi les plus valorisées parce qu'elles permettent ce partage-là au niveau social.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur Internet et quand on regarde la définition de la viande de brousse, tout de suite, il est indiqué que c'est une ressource pour vivre, pour se nourrir, et pas du tout une ressource commerciale et une source de revenus. Depuis toujours, il a existé cette chasse, depuis toujours, ça a été un mode de vie, un mode aussi de se nourrir, de compléter en termes de protéines son alimentation. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Mais en fait, il y a toujours eu des réseaux d'échanges et des communautés, comme par exemple les populations pygmées, que ce soit Aka au Cameroun, Aka au Congo, en Centrafrique, etc., qui ont été valorisés pour leur talent de chasse et leur savoir sur la chasse et leur maîtrise des techniques de chasse, et donc qui ont été sollicités par d'autres populations voisines pour chasser. Donc dans des réseaux d'échanges de viande contre d'autres objets, d'autres ressources forestières ou agricoles. Donc il y a toujours eu des échanges qui, petit à petit, ont été monétarisés.
Mais très tardivement, j'ai envie de dire. De quoi vivait-on il y a 60 ans dans les forêts d'Afrique centrale, Serge Bahuchet?
Alors il y a deux choses. D'abord, effectivement, une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que dans les forêts d'Afrique centrale, et je dirais dans les forêts équatoriales de tous les continents, c'est des régions où il n'y a pas d'élevage. Donc l'animal que l'on va consommer, on l'obtient dans la forêt par la chasse.
Pas d'élevage parce que ce n'est pas possible d'avoir de l'élevage?
Il y en a extrêmement peu. Il y a les élevages, ils sont dans les savanes ou dans les régions plus sèches. Et quand il y a des animaux d'élevage, c'est très peu, ça va être des moutons, des poulets, et c'est des animaux qui ont une valeur sociale. Donc c'est pas de l'approvisionnement quotidien. On va pas élever des poules pour les manger le dimanche. On élève des poules pour les offrir aux ancêtres, aux anciens ou aux visiteurs. Les moutons, on les tue une fois par an pour une fête, et puis sinon ils servent pour les échanges de mariage, des choses comme ça. Donc la nourriture protéique, elle va provenir de la faune sauvage, de poissons pour les communautés qui sont des pêcheurs, ou de chasse pour les communautés, pour la majorité des gens. Et puis on va obtenir de ces plantations, de ces champs, de ces jardins, des légumes, des féculents, d'abord des féculents, et puis on va aussi cueillir dans la forêt des feuilles, des insectes, des noix, qui sont des produits sauvages, mais qui rentrent dans l'alimentation. Donc l'alimentation des populations de forêt, que ce soit ceux qui pratiquent l'agriculture ou ceux qui sont des spécialistes de la chasse, comme les pygmées dont on va parler beaucoup, le régime alimentaire, c'est l'association de produits qui viennent du jardin et de produits végétaux ou animaux qui viennent de la forêt. Et ça, c'est le régime alimentaire des populations forestières depuis des milliers d'années.
Et en termes de proportion, si on devait avoir une idée justement de la place de la viande chassée.
Alors, on avait fait des mesures assez précises au Cameroun, il y a une trentaine d'années, dans l'ouest du Cameroun, et le 78 ou 80% des protéines viennent de la chasse. Je me rappelle plus la proportion, mais c'était des régimes qui avaient plus de 1500 calories par jour par personne. Et j'ai le souvenir qu'il y avait plus de 300 grammes de protéines dans le régime alimentaire.
Donc c'est fondamental.
Et ça, c'était des régimes normaux de paysans, soit d'agriculteurs, soit de chasseurs-cueilleurs. Dans ce coin-là, on les appelle les bagieli, les chasseurs-cueilleurs. Oui, c'est fondamental. Alors, ça pose une quantité de questions. Je reviendrai sur l'histoire de comment on mangeait il y a 70 ans. Mais ça, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on mangeait il y a 25 ans. Et c'est ce qu'on mange encore aujourd'hui, quand il n'y a pas de pression extérieure qui limite la chose. Alors après, le fait que le régime alimentaire soit basé sur une agriculture qui donne les féculents, ce que moi j'appelle la part calorique de l'alimentation, et la forêt qui donne le reste, les protéines, les lipides, les sels minéraux. Quand il y a pression pour limiter l'accès au milieu forestier, là, il y a des difficultés alimentaires qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que si on... Disons qu'on empêche les populations locales d'itinérer sur des espaces forestiers qui n'avaient pas de propriétaires, si je résume très méchamment, et qu'on dit, là, cette région-là, ça va être destiné à l'exploitation forestière, à la conservation de la nature ou à faire des safaris, vous, les paysans, vous avez plus le droit de venir. À ce moment-là, ils perdent l'accès à leurs ressources alimentaires.
Non, mais c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on rappelle un petit peu la proportion des apports protéiniques venus de la forêt, pour se rendre bien compte de quand ces apports-là et cette forêt s'appauvrit et cet accès est limité.
En fait, c'est pas forcément la forêt qui s'appauvrit, mais c'est l'accès qui est régulé.
L'accès, bien sûr, l'accès.
C'est surtout ça la difficulté. Et on a on va revenir en détail là-dessus et surtout Romain. D'ailleurs, mais on sait, nous, par des témoignages directs, soit de Romain et de ses collègues, soit de nos collègues japonais qui travaillent au sud du Cameroun, on a maintenant des vrais problèmes d'alimentation chez des chasseurs-cueilleurs, ce qui est une chose qui est absolument inimaginable.
Oui, ça semble incroyable. Oui. Romain Duda, vous avez vécu plusieurs mois avec les pygmées Bakal. Là, on se retrouve au sud-est du Cameroun, si je ne me trompe pas. Et alors, vous avez filmé certains moments de la vie, et quand j'ai eu la chance de pouvoir regarder ces films qu'on partagera bien sûr sur la page du Goût du Monde, il y a plusieurs choses qui sont totalement frappantes. Déjà, les enfants autour de la nourriture, l'apprentissage de la chasse, à quel point ils sont dégourdis, ils savent manier la pagaie ou la machette alors qu'ils sont comme trois pommes, qui vont justement compléter leur alimentation avec les petites souris qu'ils attrapent, enfin qu'ils chassent. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est ces petits enfants avec leur gros ventre. Et je crois que c'est le synonyme d'une malnutrition.
D'une malnutrition chez les jeunes enfants, comme le disait Serge, justement, il y a problème d'accès justement à la ressource en protéines, et qui fait que des enfants qui n'ont pas accès justement à ces protéines vont avoir des problèmes de malnutrition. Après, bon, ça évolue dans le temps, et à l'adolescence et à l'âge adulte, après, ça s'améliore justement, parce que l'accès au gibier peut augmenter, mais il y a vraiment un problème justement de nutrition et de santé par rapport à l'accès à du gibier. Et comme le disait Serge, vraiment, c'est un accès de ces questions de développement durable qu'on a cherché à appliquer en fait à l'Afrique centrale, et avec en même temps une dynamique double qui est le développement de l'exploitation forestière d'un côté, et pour compenser les dégâts de l'exploitation forestière, décret des aires de conservation desquelles les populations locales sont souvent exclues.
Exclues.
Voilà. Ça fait que les populations de chasseurs-cueilleurs qui avaient une grande liberté une grande mobilité en forêt avant se retrouvent dans des espaces rebuts le long des routes avec une limitation de l'accès à leurs ressources.
Et le truc incroyable, c'est-à-dire de manquer de viande alors qu'elle est à portée de machette, j'ai envie de dire. J'ai juste envie que vous écoutiez ce petit moment de la chasse du porc épic où les enfants sont en train d'enfumer le terrier de ce porc épic pour l'attraper. Là, je triche parce que je l'ai vu, donc je sais que ce bruit qu'on entend, c'est une feuille justement qui attise un petit peu le feu et donc la fumée. Vous parlez baka?
Oui, un peu, ouais.
Qu'est-ce qui se dit là pendant ce temps, parce qu'ils sont devant le terrier, ils surveillent?
Là, ils s'organisent. Toi va là, toi va ici. Après, on m'entend parler parce qu'il y a une chauve-souris qui sortait justement de cette cavité dans l'arbre. Et voilà.
Il y a une mais clochette c'est, donc, avec là, une graine dedans aussi qu'on entend un tout petit peu.
Oui, qui est la clochette qui est accrochée au cou du chien. Parce que là, donc, pour illustrer, là, on est avec une fratrie de 4-5 frères avec le chien de chasse du père que l'adolescent le plus grand a emmené en forêt. Et voilà, c'est un bon exemple d'autonomie des enfants et en même temps de transmission
in situ
et diagonale entre différentes générations d'enfants, les adolescents en prenant plus petit et puis et voilà, mais là avec une grande autonomie justement parce que là les parents étaient partis en forêt ou au champ, je ne sais plus, donc les enfants avaient besoin de viande pour le repas du jour et donc ils ont décidé de partir seuls.
Et alors, ils découpent la viande. Tous les morceaux de la viande sont bien expliqués. Enfin, le grand explique au petit frère. Alors, tu vois, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Puis, ils l'empaquettent dans des feuilles et très savamment. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable d'arriver à faire ça. Bref. Et donc, cette consommation, j'ai juste rappelé encore que c'est vraiment de la nourriture qu'il leur faut pour vivre. Et c'est pas la viande de brousse telle qu'on a en image ici, à savoir d'un trafic devenu commercial. Cependant, ce trafic, il existe maintenant. Et je voudrais savoir quelle est l'origine, justement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la viande de brousse. Qu'est-ce qui a fait que tout dérape en réalité, que la demande s'accroisse et que du coup, cette ressource vivrière soit devenue une ressource commerciale prisée? Romain, est-ce que vous auriez une réponse déjà, une origine?
En fait, oui, mais il y a énormément d'études sur le sujet, sur cette question de crise de la viande de brousse et du déclin en fait des grands mammifères sauvages. Et on sait qu'en Afrique centrale, le déclin des mammifères sauvages, la cause, c'est la surchasse. À la différence d'autres endroits dans le monde où ça peut être un changement d'affectation des terres, la déforestation, là, on sait que c'est vraiment une surchasse dans les dernières décennies. Essentiellement pour approvisionner les grands centres urbains où il y a eu un boom démographique et où on a une population qui a un goût pour cette viande de brousse et qui veut garder un attachement aussi symbolique à cet aliment.
Tradition, à cette culture.
Voilà. Le problème, c'est qu'on sait que vu le développement de ces grands centres urbains et le déclin de la faune sauvage en forêt, voilà, il y a un problème de soutenabilité, de durabilité finalement. Et on sait très bien que les zones forestières ne pourront plus durablement subvenir à tous les besoins des consommateurs urbains.
Serge Bahuchet, il y a un autre facteur. On a commencé à cultiver du cacao, du café. C'était une culture de rente, donc un revenu pour ceux qui cultivaient. Et puis bon, voilà, les cours se sont effondrés. On les suit sur RFI dans la chronique des matières premières. On sait très bien ce qui se passe. Et du coup, c'est un manque à gagner considérable.
Tout à fait. Alors, il y a effectivement plusieurs paramètres qui sont entrés en ligne de compte. Le principal, c'est celui que Romain vient d'annoncer, c'est-à-dire l'énorme accroissement des populations urbaines en Afrique centrale.
Et cette urbanisation, à l'origine, il y a...
Elle est très récente. En 25 ans ou en 30 ans, les villes ont doublé ou triplé de nombre d'habitants dans une anarchie totale, parce qu'il n'y a pas d'urbanisme, hein, faut pas rêver.
Il n'y
a pas d'infrastructure. Donc il y a des énormes problèmes d'approvisionnement, d'aménagement, d'hygiène, enfin dans toutes ces villes, que ce soit les capitales ou les capitales provinciales, on a des villes de 1 million, 1,5 million, 2 millions, 10 millions d'habitants pour
Kinshasa,
le Congo.
C'est énorme.
Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. Et ça s'est passé dans les 25 dernières années. Donc c'est un accroissement énorme. Mais c'est pas lié à un accroissement formidable de la population de ces pays-là. C'est une immigration rurale énorme. C'est-à-dire qu'on a maintenant, dans tous les cas, plus de 60% des habitants de tous ces pays d'Afrique centrale qui est urbaine. C'est-à-dire c'est au moins autant, voire plus que la moyenne mondiale. Alors, effectivement, et là on retombe sur, pour moi, le problème de la crise de la viande de brousse, il est lié à la crise des villes. Très très directement.
Donc, nourrir si, la ville. Comment
il faut nourrir la ville. Ville. Donc si on veut pas qu'on ponctionne les bêtes sauvages, eh ben il faut donner des aliments d'élevage. Mais alors là on tombe, c'est un autre problème géopolitique énorme. Les aliments d'élevage qu'on trouve dans les villes d'Afrique centrale, c'est des produits congés qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Sud. Et donc la production locale, elle est complètement cassée. Les éleveurs de poulets, ils ont périclité parce que le poulet il vient d'Europe. Au Gabon, il y a une expression.
Il est mort, je crois, c'est un poulet cadavre, non ?
Embaumé.
Embaumé.
Les embaumés, c'est les poulets congelés, qu'on trouve même dans des villes de brousse. Enfin, c'est vrai, c'est hallucinant. Donc, il y a un problème d'envergure, de gestion de l'approvisionnement. Et moi, ce que je trouve dommageable, en fait, c'est que les naturalistes, les écologistes, les amis de la nature, ils parlent de la forêt, puis il faut empêcher les gens de chasser parce que on tue les animaux. C'est vrai, hein ?
Non, mais de toute façon, depuis le début et tout au long de cette émission, on va le rappeler.
Il n'y a personne qui s'occupe d'approvisionner les villes. C'est un autre secteur d'activité, du développement, des agences internationales. Tout ça est sectorisé et ça ne tient pas. Alors, il y a un autre paramètre qui a amplifié cette chose, c'est le développement d'exploitations forestières. Parce que ce qui était, il y en avait très peu il y a 30 ans, hein. Et puis ça s'est accru formidablement, on va passer dessus, c'est trop long. Mais pour exploiter la forêt d'Afrique, elle est exploitée en prélevant un arbre par hectare. C'est pas des coupes à blanc énormes comme on est habitué dans les forêts de tempérées. Mais pour aller chercher cet arbre, il faut faire des routes, il faut faire des chemins. Donc en fait, la forêt d'Afrique, elle est complètement morcelée par des réseaux de routes, ce qui fait que des acheteurs de viande, ils peuvent aller en voiture au cœur de la forêt, là où on pouvait pas y aller avant parce qu'il fallait y aller à pied. Donc il y a eu cette facilitation, et il y a un deuxième paramètre qui est lié à l'exploitation forestière qu'il faut pas négliger, c'est que pour une exploitation forestière, il faut des ouvriers. Encore plus s'il y a une scierie qui va avec. Et pour avoir des ouvriers, eh ben on crée une ville au milieu de la forêt.
Il faut les nourrir. Et ils aiment la viande de brousse, donc et on continue cette espèce d'engrenage.
Voilà. Alors le dernier point, puis après j'arrête là-dessus, c'est que c'est pas les pygmées les grands chasseurs. Hein.
Non, mais justement, c'est ça qui est sidérant en fait quand on regarde, c'est qui chasse, qui a besoin, qui demande, et on a des hommes armés, des braconniers qui sont allés dans la forêt. Et qui sont allés sur le territoire de ceux qui en vivent, et du coup ça a transformé, y compris avec des armes que n'utilisent pas peut-être les populations qui sont dans les forêts, Romain Duda. Ça a tout changé.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les populations locales, là essentiellement Baka ou Aka, n'ont pas les moyens d'acheter un fusil ou ont des difficultés pour ne serait-ce qu'acheter un rouleau de câble pour faire quelques pièges, tandis que les autres populations qui sont dans des cultures de rente, les populations d'agriculteurs, etc., et surtout les chasseurs étrangers aux zones forestières, viennent avec des ressources matérielles beaucoup plus importantes, avec des cartouches, avec des fusils. Et donc il y a un déséquilibre qui se crée, c'est-à-dire que les chasseurs Aka Baka sont employés finalement comme chasseurs,
comme spécialistes,
voilà, c'est-à-dire qu'on va mobiliser leur savoir traditionnel pour chasser pour le compte d'autres personnes. Donc là dans cette histoire de filière de commercialisation de viande de brousse, ils sont finalement le premier maillon de la chaîne. Mais finalement, c'est ceux qui bénéficient le moins, finalement, de tout ce commerce. Parce que finalement, il y a des bénéfices qui se font à chaque
degré, à chaque étape de cette vente et de cette...
Jusqu'à arriver, donc, à Brazzaville, Yaoundé, voire en Europe. Et finalement, le chasseur qui a mobilisé son savoir,
très fin,
de connaissance de pour pister l'animal, de reconnaître, de marcher des heures en forêt et de limiter. Et finalement, c'est eux qui bénéficient le moins, et il y a une reproduction finalement d'un système de marginalisation, de discrimination et de mise à l'écart finalement de ces populations.
chants d'appel au gibier des pygmées Baka dans l'est du Cameroun. C'est vous qui les avez enregistrés, je crois, ces chants, Romain, ou pas du tout?
Oui, c'est moi.
C'est vous. Parce que vous viviez avec vous. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde dans les forêts d'Afrique centrale avec l'ethno-écologue Serge Bahuchet et l'éco-anthropologue Romain Douda. Nous parlons de viande de brousse, de chasse, d'une ressource vivrière devenue source de revenus et qui pose bien sûr des questions quant à la préservation de la faune, la préservation aussi des ressources alimentaires des hommes. Question de préservation de la faune, on a commencé un peu à brosser cette idée de préservation justement de la faune et de la flore et des mesures qui sont prises. Et ce sont des politiques de conservation qui sont, vous l'avez pu le constater Romain Duda, militarisées. Comment est-ce qu'on conserve la faune quand on est au Cameroun et qu'on est à côté des Baka?
Oui, c'est de plus en plus militarisé parce que justement les acteurs de la conservation, les éco-gardes, font face à des braconniers, donc là au sens braconnier de chasseur, dont c'est la profession, dont c'est vraiment l'activité quotidienne de
donc
sortir
armé,
de forêt.
Donc armé, a priori.
Voilà, beaucoup plus armé. Et puis il y a aussi une question du trafic d'ivoire. Et cette question du trafic d'ivoire, là aussi, il y a un armement de plus en plus lourd pour le trafic d'ivoire, pour la chasse à l'éléphant, pour fournir des réseaux illégaux de commercialisation d'ivoire qui arrivent jusqu'en Europe ou en Asie du Sud-Est. Et donc là, pour le coup, les acteurs de conservation justifient le fait d'être armés, très armés, pour lutter contre ce trafic d'ivoire.
Oui. Le problème, je tiens à rappeler juste pour ceux qui nous rejoignent que nous ne faisons pas l'apologie du tout du braconnage. Hein. On précise bien que la raison de cette émission, c'est de dire que la viande de brousse, ça permet de nourrir. Et qu'après, c'est les excès commerciaux qui sont dénoncés. Et donc les politiques de conservation sont évidemment importantes. Après, il faut savoir les faire et les faire de telle manière que tout le monde puisse bien s'en sortir.
Voilà, c'est une question complexe. Et parce que justement, après, il y a une question de l'image qu'on donne de la conservation localement, qui a tendance à ne pas trop impliquer justement ou pas assez les populations locales, et à l'inverse de montrer finalement des éco-gardes hyper armés débarqués dans les villages sans forcément d'échange ou d'explication. Ça crée une image de la conservation qui, en tout cas pour les populations locales, ont l'impression que c'est quelque chose qui est dirigé contre eux. La conservation, c'est leur empêcher de consommer de la viande et donc générer des problèmes nutritionnels,
et
de santé et d'identité culturelle.
Ouais. C'est très intéressant. J'ai, dans un article que vous avez écrit, vous expliquiez la perception qu'ont les Baka des ressources dans la forêt. Est-ce qu'il manque? Est-ce qu'il y a de moins en moins d'animaux ou pas? Et qui remettent un peu cette absence à, bah, ils ont décidé de migrer, d'aller vivre ailleurs, les animaux et tout ça, et leur conception des éco-gardes. Et là, il y a une vraie méfiance. Parce que c'est leur survie, en fait, et en tout cas leurs ressources qui sont clairement menacées avec la présence des éco-gardes.
Oui, ben on en revient à cette question de la création d'aires protégées qui exclut finalement les populations locales d'une mobilité sur leur espace et d'un droit d'usage finalement des ressources qui sont dans leur forêt. Et il y a cette question aussi qui est très importante et qui est, je pense, au fondement du conflit entre idéologie de la conservation de la nature telle qu'on la pense en Europe et la manière dont elle est appliquée localement, et cette mésentente et cette incompréhension entre deux modèles qui sont deux modes de perception de la nature. Et c'est vrai qu'encore actuellement, les grosses ONG de conservation sont pensées depuis l'Occident dans une idée de nature vierge qu'il faut préserver, et avec cette idée que l'être humain est fondamentalement, par essence, destructeur du milieu, et donc il faut l'exclure. Et le problème, c'est que si on n'intègre pas et si on n'implique pas les populations locales dans des projets de conservation, on ne peut pas avancer. Et on a besoin de l'implication des populations locales. Sinon, on reste dans une vision conflictuelle et dans une vision quasiment néocoloniale d'imposer finalement un rapport à la nature et certaines valeurs. Et on voit que ça marche pas. On voit qu'en tout cas, les gros projets de conservation d'aires protégées, finalement, à la fois en termes de déclin de mammifères sauvages et en termes de droits humains, finalement, c'est souvent un échec.
D'autant que certaines populations sont tout à fait désireuses de participer. Je pense aux bonobos.
Oui.
Enfin, aux populations
là
qui vivent.
Là, on change un peu de
on change de zone,
de
mais
zone,
on reste dans la forêt. Racontez-nous.
En fait, cette question de grands projets de conservation et d'aires protégées qui sont souvent imposés de l'extérieur, avec plus ou moins de consentement des populations locales. On voit très souvent que le consentement des populations locales, qui est un devoir, là, pour le coup, au niveau légal, au niveau du droit international, n'est pas souvent respecté. À l'inverse, ce qui montre une efficacité d'un point de vue local, c'est les projets de conservation communautaires. Et là, on renverse complètement le mécanisme, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont initiés et voulus par les populations locales et pensés à l'échelle locale. Et très souvent, on voit que ça marche, ça fonctionne quand même beaucoup mieux.
Beaucoup mieux, ouais. Je parlais des bonobos qui sont, pour le coup, des interdits alimentaires. On n'a pas le droit de manger de la viande de bonobos.
Dans certaines zones, notamment dans le terrain d'études que j'ai actuellement avec l'Institut Pasteur, avec les populations batéké, à l'ouest de la RDC, où là, il y a un interdit culturel, historique, sur la consommation du bonobo et qui trouve ses racines dans la mythologie. Et donc, en fait, un projet de conservation communautaire, initié par une ONG qui s'appelle Beaumontour, a décidé finalement de revaloriser cet interdit culturel pour protéger finalement cette espèce. Aussi parce qu'il y avait des braconniers d'autres populations voisines qui venaient chasser. Et donc c'est un projet qui finalement est assez efficace et prometteur parce qu'il... En protégeant le bonobo, l'idée c'est de protéger finalement tout l'écosystème et toutes les autres espèces et en même temps de générer des revenus et des activités alternatives pour la population locale autour de forêts communautaires.
Serge Bahuchet, vous qui avez vu, vous étiez dans ces forêts dans les années 87. Ouais. Comment est-ce que ça a évolué justement cette préservation de la faune et cette conservation, les mesures prises? Comment est-ce que vous avez vu cette évolution?
Ben, un peu comme Romain vient de le dire, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en Centrafrique, il n'y avait pas de réserve. Il y a une réserve qui a été créée, personne ne savait qu'elle était là, et puis après ça s'est densifié. La bascule en Afrique centrale, elle a été à partir de la convention de Rio des années 90, enfin 92, la convention de Rio, et puis après, à la fin du XXe siècle, là, les pays d'Afrique centrale, sous les conseils des ONG environnementalistes occidentales, hein, c'est vrai. Disons qu'ils ont rattrapé le retard qu'il y avait sur les forêts. Tous les grands parcs nationaux étaient en savane. L'écosystème savane était bien protégé. Et la forêt n'était pas protégée, il y avait des exploitations forestières ou rien du tout. Et puis, à partir de ces périodes-là, les années 90, il y a eu la mise en place d'aires protégées, et ça augmente. La surface protégée, elle a triplé en 25 ans. Et en effet... Avec le modèle que Romain a signalé, c'est-à-dire que la conception occidentale de la conservation de la nature, qui est, l'homme est un destructeur, donc il doit pas être là, donc on fait un parc national et il faut pas d'homme. Ça, c'est propre à plusieurs pays d'Afrique centrale. C'est pas comme ça dans la totalité des continents, et il y a même des variantes entre certaines régions d'Afrique centrale et d'autres où la mise en place est pas la même. Mais la philosophie, c'est la même. Alors effectivement, les populations locales, aussi bien les chasseurs-cueilleurs pygmées que les agriculteurs de la même région, hein, qui vivent là depuis aussi autant de siècles que les autres, se sont retrouvés face à des interdictions pour lesquelles on leur a pas demandé leur avis, ou si on leur a demandé leur avis, on leur a dit bon, on va vous faire le terrain de football, alors ne vous faites pas chier. C'est ça le niveau de négociation qui se passe, hein, dans des régions qui sont de toute façon sous-équipées. Faut bien penser que malheureusement, c'est une grande partie de ces régions sont délaissées, sont pas bon, les pouvoirs publics sont déficients, enfin c'est des pays qui ont des grosses difficultés d'organisation quand même, et donc tous ces gens se sont trouvés face à ces choses qui sont arrivées chez eux brutalement, finalement. Alors après, il y a des comportements de garde qui sont plus ou moins honnêtes, je dirais. Et il y a cet amalgame que Romain a suggéré, mais qu'on peut le préciser, c'est qu'effectivement, il y a du braconnage d'éléphants énorme. Mais la chasse quotidienne, c'est pas la chasse à l'éléphant. Et les gardes, ils ont tendance à mélanger les deux. Et on a vu, bon, moi je le sais pour le Gabon, mais je sais que c'est aussi vrai au Cameroun, des éco-gardes à 20 km de la lisière d'un parc national vont dans les maisons et soulèvent les marmites pour voir s'il y a de la viande de brousse. Ça veut dire du porc-épic ou ou des petits céphalophes qui sont le gibier ordinaire. Et c'est tout ça qui va pas. C'est des choses qui ne respectent même pas la loi, parce que dans ces pays d'Afrique, il y a des lois de conservation de la nature, il y a des espèces protégées qu'on n'a pas le droit de tuer. Et plusieurs, à juste titre. Mais il y a des espèces qu'on a le droit de tuer. Et on a le droit d'utiliser des chasses traditionnelles. C'est-à-dire que, donc, il faut pas tout mélanger.
Bien sûr.
Et l'amalgame, il est vraiment fait, dans la périphérie des aires protégées. Et c'est ça qui est répréhensible de mon point de vue, qui est malhonnête, de toute façon. Alors après, si on veut vraiment que les gens mangent pas de viande de brousse, pourquoi pas? Mais il faut leur donner autre chose.
Oui, et puis il y a un vrai goût, enfin on l'a suggéré tout à l'heure, Romain Dudas, c'est il y a un goût pour cette viande qui est un peu plus forte, un peu plus enfin, je vais dire savoureuse. Bah, mais qui a du caractère. Alors qui plus qu'un poulet congelé un peu
au produit de terroir.
Bah, c'est du gibier.
C'est du gibier, et puis c'est ce qu'on a mangé quand on était petit, enfin c'est il y a beaucoup
la patate qui court, c'est quand même plus savoureux qu'un poulet qui court pas quoi.
Ouais, tout à fait.
Oui. Et il y a un vrai goût pour ça.
Il y a à la fois le goût et la nostalgie de retrouver le goût d'une espèce qu'on a aimée par rapport à un poulet plus fade.
Et mais
il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que ce qui est valorisé dans la viande sauvage, c'est aussi la pratique de la chasse, la manière dont on a acquis le gibier. La chasse qui est quand même une pratique très valorisée, très valorisante. Et il y a tous les systèmes de partage aussi qui font que quand on a un gibier, on le partage et le gibier arrive dans un système de partage très étendu où chaque personne de la famille, avec des règles très très précises, chaque personne de la parenté va obtenir un petit morceau
qui peut changer d'ailleurs d'un repas à un autre peut-être
en fonction de l'espèce, en fonction de la relation de famille qu'on a avec telle ou telle personne, en fonction de qui a donné le premier coup pour abattre le gibier et qui étaient les assistants, etc. Donc il y a tout un système de partage qui soude en fait, qui permet, la viande c'est aussi ce qui permet une cohésion sociale autour du repas.
C'est rare d'aller seul chasser un éléphant,
donc
on est en groupe, donc une organisation. Je vous propose justement d'écouter ce chant sacré que vous nous avez proposé de partager. C'est un chant rituel qui est entonné par la doyenne du village Baka, où vous viviez, Romain.
Oui.
Alors c'est un chant propitiatoire, c'est-à-dire que cette femme va appeler avec les autres femmes, c'est chanté toute la nuit je crois, et elle appelle justement la chance pour que les hommes qui vont chasser l'éléphant soient accompagnés de chance dans leur quête de cet grand animal. Donc ce chant, Romain, racontez-nous.
Alors c'est un chant qui s'appelle Yéli ou Yéi dans d'autres zones et qui est un chant assez particulier parce que autour de la chasse à l'éléphant dont on parlait tout à l'heure, c'est un chant qui était entonné par les femmes restant au village la veille du départ très tôt le matin des chasseurs lors d'une chasse à l'éléphant qu'on appelle Maka, qui en fait veut dire la rencontre. Et c'est un chant qui n'est plus pratiqué. Et quand je demandais la vieille maman Alone qui chante pourquoi finalement ce chant n'est plus pratiqué, c'est qu'en fait c'est un chant qui annonce un départ de chasse à l'éléphant. Donc en fait, annoncer un départ de chasse à l'éléphant dans le contexte de conservation actuelle, c'est assez complexe. Parce que on s'expose à la jalousie, on s'expose à la dénonciation
des voisins,
des voisins, etc. On sait que potentiellement quelques jours plus tard, de la viande d'éléphant va arriver au village. Et même si c'est rare, moi dans le village où j'étais, 4 ou 5 éléphants ont été tués dans l'année où j'étais là-bas. Donc ça reste très rare. Mais quand même, on sent que là, c'est une pression de la conservation de la nature qui fait que là, on est en train de perdre un chant rituel qui était très important et qui finalement montrait aussi que le chant des femmes permettait finalement aux hommes d'être efficaces à la chasse. Donc en fait, il y a l'efficacité des femmes, il y a une efficacité symbolique et l'efficacité pratique finalement entre hommes et femmes. Et c'est les deux finalement, et c'est toute la société qui fait que on va réussir une chasse.
Mais j'ai un souvenir très clair de quand Serge est venu nous parler justement des aliments magiques, il y avait cette chasse à l'éléphant,
oui.
Et l'importance et tout le symbole,
oui,
que revêt cette chasse à l'éléphant. Vous avez dit aussi que du coup, moins d'éléphants, et surtout c'est peut-être par de la viande est partagée, n'est plus rapportée au village peut-être. Et donc c'est encore une rupture dans les traditions.
En fait, oui, comme il y a de moins en moins de viande qui arrive au village, il émerge des jalousies. Comme c'est l'aliment le plus valorisé, tout le monde a envie de consommer de la viande. C'est le manque le plus central, finalement, dont on se plaint, c'est le manque de viande. Et donc, partager une viande veut dire en avoir moins. Donc, de plus en plus, se crée une sorte d'individualisme. Donc, des situations où le chasseur va cacher son gibier en forêt, ne pas le ramener. Ça va créer des conflits sociaux, de famille. Donc voilà.
Donc on est à l'opposé de la vocation même.
Moins de ressources, moins de partage. Et donc ça crée de la jalousie.
Oui. Serge Baïchet.
Oui, je voulais préciser, pour que les choses soient claires pour les auditeurs, la chasse à l'éléphant chez les pygmées, Aka ou Baka, elle est très rituelle, elle est très symbolique, elle est très rare. La viande quotidienne, c'est pas l'éléphant.
Non, bien sûr, c'est le porc épic.
Donc c'est le porc épic, la petite antilope, les céphalophes ou des choses comme
souris.
Ça. Donc il faut pas que les gens se trompent là-dessus. Ce dont Romain parle, c'est beaucoup plus profond parce que effectivement, la vie de la société des chasseurs-cueilleurs, c'est basé sur la distribution, sur le partage, même si c'est un petit singe. Alors, dans ce contexte-là, l'éléphant est un peu différent. Alors effectivement, quand il y a commercialisation, ce qui est le cas actuellement, à ce moment-là, on partage plus la ressource, parce qu'on va la vendre. Donc là, on a une rupture de l'organisation sociale. Et ce que disait Romain aussi sur le fait que c'est un aliment important, la viande, dans toutes ces langues de Centrafrique, là, il y a un mot spécial qui signifie la faim de viande. Donc il y a la faim, on a famine,
on a
famille,
faim,
d'ailleurs ils disent en français local, c'est-à-dire qu'il manque d'aliments, donc on a faim. Mais quand il n'y a pas de viande, il y a un mot spécial pour ça, qui n'est pas rare, qu'on entend. Donc c'est une plainte, c'est une souffrance.
Ce qui est intéressant aussi, c'est tout cet apprentissage, cette distribution, ce partage de nourriture. Il y a aussi la manière dont on confectionne cette nourriture. Un autre film, un porc épic qui est cuit et bouilli. Et il y a tout le monde réuni autour de la marmite. Alors là, je vous propose d'écouter encore un extrait des films que vous avez réalisés, Romain, dans la communauté Baka, où donc on a plein d'enfants et quelqu'un qui est en train de préparer ce porc épic. Donc il y a le partage, la découpe de ce porc épic. Et ce qui est rigolo, c'est que les enfants chantent. Donc je me suis dit, il y a comme une espèce de...
Mais il y a une joie de... On sait qu'on va manger un peu de morceaux de viande, même si c'est des morceaux très petits. Là, dans la vidéo, on voit que chaque enfant bénéficie d'un petit morceau de peau ou d'organe. Et que c'est...
Ouais. Et qu'il l'emmaillote dans une feuille, ouais. Qui va ensuite amener sur le feu pour le faire cuire. Il y a tout un apprentissage comme ça. C'est toute la vie qui se fait autour de cette viande et autour de cette marmite.
Oui, on en revient sur l'autonomie. Finalement, on donne un petit morceau de viande à un enfant de 4 ans. Il va aller se le cuire lui-même, sous l'œil de son grand frère ou de sa grande sœur.
Je voudrais savoir, il y a aussi la viande de brousse, il y a deux éléments, un élément dont on n'a pas parlé encore, qu'il faut bien sûr préciser, avant de reparler juste encore de la valeur de la viande chassée, c'est pour la santé, parce qu'il y a énormément de craintes quant à la viande de brousse et à la santé et aux épidémies. On a un peu sorti la viande de brousse de son contexte, j'ai l'impression, Romain Duda.
Oui, en fait là, je pense qu'on fait des grands raccourcis et... Le problème, c'est qu'en pensant que consommer de la viande de brousse, finalement, c'est un facteur d'émergence de maladies infectieuses, finalement, en pensant ça, on restigmatise finalement les populations locales, dont c'est le principal apport de protéines, et on simplifie beaucoup le contexte, aussi d'un point de vue historique, parce qu'on... Les populations forestières, même partout dans le monde, ont consommé de la viande sauvage et eu des contacts avec de la viande sauvage depuis des siècles, des millénaires. Et si on reprend, par exemple, l'épidémie de VIH, c'est, on n'a pas d'épidémie parce que subitement, on s'est mis à toucher un singe ou à consommer un singe. C'est plutôt tout un contexte structurel, social, économique qu'il y a derrière et des conditions
de propagation
et dans quelles conditions, dans quel contexte finalement arrive finalement une maladie émergente qui fait qu'elle se propage.
Puis on a aussi des chauves-souris qui côtoient des pangolins et qui côtoient des singes alors qu'ils ne sont pas du tout censés être les uns avec les autres dans leur milieu naturel.
Oui, c'est ça. C'est qu'aussi la mondialisation des échanges fait qu'on va mettre en contact aussi des espèces qui n'ont jamais été en contact, surtout quand c'est des espèces vivantes. Et là, on augmente le risque finalement de mutation d'un pathogène, d'un virus finalement, et le franchissement de barrières d'espèces.
La cuisine de rue, elle est fondamentale en Afrique.
Alors, elle y était il y a quelques années maintenant.
Comment ça, elle n'y est plus?
Non, parce que je veux dire que je ne suis pas allé depuis longtemps, donc je ne peux pas en témoigner. Il y a 20 ans, bon, moi j'allais très souvent à Yaoundé, on avait des programmes de recherche là-bas. Et en fait, effectivement, comme il n'y a pas de restaurant d'entreprise, il n'y a pas de... Enfin, quand les travailleurs allaient manger, bah, ils allaient manger dans des gargotes, qui sont soit des petits stands, soit souvent c'est des ménagères, des mères de famille qui préparent la cuisine, donc c'est des marmites, dans lesquelles il y a un ragoût. Et dans ces ragoûts, la plupart du temps, c'était effectivement soit des singes, soit des antilopes, souvent des antilopes ou des porcs épics. Mmh. Et en fait, à cette époque-là, ça coûtait pas plus cher d'acheter une assiettée avec un morceau de céphalophe que d'acheter une part de poulet ou de porc. Donc à ce moment-là, si ça coûte le même prix, on prend ce qu'on préfère.
Puis c'est toute une économie encore, parce que ces femmes du coup ont des sous pour pouvoir nourrir leur famille.
Et en fait, c'était... ces femmes, elles achetaient... un demi gibier, elles le préparaient, puis elles vendaient ça quelques sous, puis ça leur nourrissait leur famille pour la journée. Et en fait, à nouveau, mon témoignage, il remonte
au
début du siècle.
On mange toujours dans la rue. Est-ce qu'on mange de la viande de brousse dans la rue?
On en trouve toujours. Après, en fonction des espèces, on trouve peut-être pas tout par rapport à avant. En fonction des quartiers aussi, c'est souvent dans les quartiers plus riches où peut-être on en trouve un peu plus, parce que la valeur de cette viande augmente, plus elle est rare, plus elle est chère. Après, il y a la viande de rue et il y a ce qui est consommé finalement dans les foyers. Là, c'est un peu plus difficile d'estimer.
C'est tout un équilibre à trouver en réalité, à retrouver. Et est-ce qu'on va dans ce sens-là, Serge Bahuchet, Romain Duda? On peut l'espérer.
Soyez optimiste, on va trouver des chemins pour y accéder.
Bon, on va l'espérer. Puis on va
Mais il y a beaucoup de préjugés à rompre. Il faut une meilleure connaissance, effectivement, de l'économie des populations locales, de leurs besoins. Tout à l'heure, vous aviez mentionné l'histoire du cacao. C'est aussi un point, c'est à la même époque qu'on a pu l'observer. Il y a eu une crise énorme du cours du cacao dans les années 80 au Cameroun. Tous les cultivateurs de cacao, il ne s'agit pas des pygmées, là, il s'agit bel et bien des agriculteurs, ils ont abandonné leur champ de cacao. Mais ils avaient besoin de l'argent, parce qu'il faut payer les impôts, il faut payer l'école, enfin bon, c'est des pays monétarisés. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir l'argent, le petit peu d'argent dont ils avaient besoin pour leur vin? Ils ont été mis des pièges pour vendre la viande. Tout ça est lié, en fait. Hein. Mmh. En fait, le point de départ, c'est que les populations rurales d'Afrique centrale, elles ont besoin de revenus. Donc si on leur procure des revenus, ils ponctionneront moins une ressource monétaire et puis ils se contenteront de la manger, et puis c'est tout, puis ça fera de mal à personne. Mmh. Mais il faut trouver cet équilibre monétaire, économique pour tous ces paysans de toutes sortes auxquels personne ne pense. Hein.
Mmh. Romain hoche la tête, ça veut dire qu'il est d'accord.
Oui, c'est ça, mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il faut penser des alternatives solides pour la consommation de viande en ville. Et en même temps, au niveau local, il faut, je pense, donner plus de poids aux populations locales, impliquées. Sécuriser leurs droits. Et il y a tout un travail aussi de changer le modèle de conservation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un modèle de conservation qui est beaucoup plus inclusif, en fait.
Ouais. Impliquer les uns, impliquer les autres pour construire un nouveau modèle. C'est une tradition dans le goût du monde. Un ingrédient, un ustensile, chacun, s'il vous plaît. Romain.
On n'a pas parlé d'une source de protéines qui est importante et qui n'est pas forcément catégorisée dans la viande de brousse, c'est les chenilles.
Mmh. Ah oui.
Et finalement, on en parle peu, mais ils ont une très grande importance finalement au niveau local, essentiellement pour les populations pygmées, Aka ou Baka, parce que c'est une ressource qu'on trouve en forêt et qui est très appréciée à la fois pour leur goût, mais aussi pour leur timing, parce qu'ils arrivent à un moment, au moment où justement on trouve de moins en moins de gibier, de mammifères, et à des moments justement où il y a cette fin de viande, et c'est là que les chenilles arrivent sous certains arbres, et là c'est la grande joie de ramener au village des grandes marmites de chenilles qu'on fait griller.
Bon, et votre ustensile avec ces chenilles?
L'ustensile qui est utilisé systématiquement du matin au soir et c'est la machette. C'est la machette sans laquelle on peut finalement rien faire en forêt. C'est-à-dire que la machette permet de faire des travaux agricoles, de ramasser des produits forestiers non ligneux permet de partir à la chasse, de couper des feuilles pour en fumer un terrier. Et c'est l'élément de base pour toutes les générations aussi, que ce soit la vieille grand-mère qui veut faire un peu de travail dans son champ ou l'enfant de 4 ans qui veut chasser lui-même quelques petits rongeurs et se faire une petite lance.
Une petite lance. Serge Bahuchet.
Alors, je vais compléter sur la machette. J'avais aussi pensé à la machette, mais j'ai un autre ustensile. La machette, elle sert aussi à découper. C'est-à-dire que ça sert à tout, avec des gestes très précis. C'est toujours affûté jusqu'à se couper le bout des doigts pour nous, les Blancs, quand on ne fait pas attention. Et c'est avec ça qu'on découpe la viande. Et on la partage. Et alors, l'autre ustensile qui est aussi assez fréquent chez les AK, c'est une espèce de spatule de bois, une palette de bois en forme plus ou moins ovale, qui fait 30 cm de long, qui sert à touiller les ragoûts dans la marmite, mais qui sert aussi de planche à découper. C'est là-dessus qu'on va couper, avec la machette, en très fines lamelles, des feuilles de liane qu'on appelle le coco, un gnetum, qui est une sorte d'épinard un peu coriace pour nous, mais pour très apprécié. Et qu'on va mettre dans le ragoût. L'ingrédient, j'ai pensé à l'émission que vous avez faite récemment sur le poivre.
Le poivre du Kivu.
Alors, il y a un poivre qui était mentionné dans l'émission, qui est un poivre sauvage. Maintenant, il est cultivé, mais c'est un poivre sauvage des forêts d'Afrique. On appelle pipère guinéen, c'est le poivre de Guinée. Et à la fin de l'époque coloniale, et encore à la période où on allait sur le terrain, nous autres, en Centrafrique, c'était une ressource que des colporteurs venaient acheter. Les pygmées le collectaient dans la forêt pour le vendre aux colporteurs. Eux-mêmes, ils l'utilisent pas. Mais par contre, c'était un produit de commerce et ça rappelait le commerce au Moyen-Âge où on allait chercher aussi ce poivre-là en Afrique de l'Ouest pour l'exporter en Europe.
Merci beaucoup Serge Bahuchet, Romain Duda. Merci à tous les deux de nous avoir ouvert les yeux sur cette viande de brousse. Les jardiniers de la nature, Serge, est publié chez Odile Jacob. Vos publications, vos films de terrain, toutes les références, Romain Duda, on les trouvera sur la page du Goût du Monde, évidemment sur RFI.fr, ainsi que la recette de cet agouti ivoirien dont vous m'avez parlé. Vous m'avez apporté un joli livret cordon bleu, le gibier, comment le préparer en 18 recettes. C'est reparti, c'est intitulé sur la couverture. On mettra quelques photos, évidemment, de ce livre de recettes. Chez vous, alors, racontez-nous aussi, mangez-vous du gibier? Pourquoi l'aimez-vous? Lequel aimez-vous? Où le mangez-vous et avec qui? Racontez-nous sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation de ce Goût du Monde. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. D'ici là, bon appétit et prenez bien soin de vous.